Bon, la crise des gilets jaunes sera derrière nous au moment du carême, mais ça nous permettra d'avoir un peu de recul pour essayer de parler justement du rôle de l'autorité politique. Hein. Et au-delà de ça, je terminerai sur la nation, hein, ce qu'on peut dire sur la nation. Donc, je vais faire différents parallèles, hein. J'ai différentes annexes. Je vais faire référence au pape, bien sûr, à Saint Jean-Paul II, surtout aussi, dans Centesimus Annus, entre autres, hein, même dans Evangelium Vitae. Alors, la doctrine sociale de l'Église, donc le rôle de l'autorité politique, hein, la doctrine sociale de l'Église nous donne des éléments pour discerner la mission de l'autorité politique, hein, et ses risques et ses enjeux. De manière habituelle, lorsque l'on parle du rôle de l'État, la doctrine sociale de l'Église regarde sa façon de gouverner, et d'un point de vue donc de la doctrine sociale de l'Église, dans les relations entre le domaine spirituel et le domaine temporel. Ce que l'Église a toujours enseigné, c'est la nécessaire autonomie du pouvoir temporel, mais non son indépendance absolue vis-à-vis de la finalité spirituelle des hommes et des sociétés. Ainsi, Léon XIII, dans son encyclique « Immortale Dei », que vous avez bien sûr tous lu, en 1885, rappelant que tout pouvoir vient de Dieu, indique l'obligation, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les sociétés, de rendre un culte public à Dieu. On imagine ce que ça signifie, hein, déjà, en 1885. Et pourquoi ? Parce que les sociétés politiques ne peuvent pas, sans crime, se conduire comme si Dieu n'existait en aucune manière, ou se passer de la religion comme inutile. Ça, c'est une bonne introduction pour comprendre, hein, ce que ça signifie, hein, pour comprendre finalement les enjeux. Et Pie XII, en 1939, reprend un peu la même chose, hein, en montrant quel grave danger cet oubli de Dieu fait courir aux nations. Il va dire « Il est une autre erreur non moins dangereuse pour le bien-être des nations, c'est l'erreur contenue dans les conceptions qui n'hésite pas à délier l'autorité civile de toute espèce de dépendance à l'égard de l'être suprême, de Dieu. » C'est un vocabulaire. « L'autorité de Dieu et l'empire de sa loi étant ainsi reniés, le pouvoir civil, par une conséquence inéluctable, tend à s'attribuer cette autorité absolue qui n'appartient qu'au Créateur et Maître suprême et à se substituer au Tout-Puissant en élevant l'État ou la collectivité à la dignité de fin ultime de la vie, d'arbitre souverain de l'ordre moral, hein, et en interdisant de ce fait tout appel au principe de la raison naturelle et de la conscience chrétienne. » C'est là que Jean-Paul II, bien sûr, affirme les choses aussi. Enfin, on comprend. Donc, vous comprenez, derrière tout ça, c'est comment finalement l'État politique qui renie tout, hein, lien à une transcendance tend à prendre, à devenir en quelque sorte une idole, hein, et à obliger finalement les personnes à suivre ces lois aussi, hein, puisqu'elles se coupent, hein, de toute dimension transcendante. Et c'est Saint Jean-Paul II, avec Centesimus Annus, qui va dire, enfin lui, quand il va analyser deux conceptions de l'État, le socialisme et le libéralisme. Est-ce qu'on le quitte aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. Qui semblent opposés, socialisme et libéralisme, mais en réalité qui se sont construites sur le même fondement. C'est ce qu'il va dire. Et il va parler d'une erreur identique. Et le même fondement, c'est quoi ? La négation de Dieu et de la loi naturelle inscrite au cœur des hommes. Socialisme et libéralisme se sont construits sur, finalement, cette même erreur, hein, négation de Dieu et de la loi naturelle des hommes. Hein. C'est-à-dire que s'il n'existe pas une vérité transcendante à laquelle l'homme se soumet, hein, il n'existe aucun principe sûr pour garantir alors les rapports justes entre les hommes. Donc, on comprend donc, pour la doctrine sociale de l'Église, la racine des erreurs dans le domaine du gouvernement, hein, provient du fait que l'on nie une vérité objective sur l'homme et la société. C'est-à-dire la transcendance et la loi naturelle. Alors, quelle est cette loi naturelle? De quoi peut-on... comment parler de cette loi naturelle dont on parle? Dans Sanctissimus Annus, le Saint-Pape Jean-Paul II va nous parler des 10 commandements. Pour lui, quand on regarde les 10 commandements, c'est une loi, ce sont 10 commandements qui sont finalement une loi naturelle inscrite au cœur de l'homme et de tout homme. Et c'est, pour lui, il va dire, cette vérité objective sur l'homme et la société, à travers l'affirmation du Dieu et de l'existence de la loi naturelle, repose, pour nous, sur la reconnaissance par l'État des 10 commandements comme fondement de la vie sociale. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. etc. Enfin bon, on a ça. Tant que les États ne prendront pas comme fondement du droit les 10 commandements, c'est-à-dire le respect de la loi naturelle qui s'impose à tout homme, ils ne pourront prétendre échapper au totalitarisme. Ça, c'est... faut essayer de comprendre ça, mais on est dedans. On est dedans. Donc, on va reprendre des éléments. Le totalitarisme et ses conséquences. Donc, qu'est-ce que le totalitarisme? Bon, je reprends un petit peu les choses, mais c'est pour une façon de reprendre différemment, mais pour ça rentre. Un État totalitaire est un État qui refuse une vérité objective du bien et du mal, indépendamment de sa volonté. Il refuse une vérité objective du bien et du mal qui serait imposée indépendamment de sa volonté, c'est-à-dire qu'il est à lui-même son propre juge. C'est une autorité qui décide d'elle-même ou de façon démocratique, par le vote d'une majorité, bien sûr, ce qui est bien ou mal à un moment donné de son histoire. On est en dehors, donc, on voit tout ce que ça signifie. Son seul but devient le pouvoir pour lui-même et non plus l'établissement du bien commun et de la paix sociale. On imagine. Si on n'a plus cette dimension transcendante ou cette loi naturelle inscrite au cœur de l'homme qu'on doit respecter, en fonction de chaque gouvernement, eh bien, on aura une éthique différente et puis des lois différentes. Il faudra, c'est insécurisant aussi pour nous aussi. Ce que Saint Jean-Paul va dire, il précise que toute institution s'inspire d'une vision de l'homme pour établir les lois en société. Si cette vision est subjective, arbitraire et personnelle, elle ne peut engendrer que des injustices. S'il n'existe pas une vérité transcendante à laquelle l'homme se soumet, acquérant sa pleine identité, dans ces conditions, il n'existe aucun principe sûr pour garantir des rapports justes entre les hommes. Leur intérêt de classe, de groupe ou de nation les oppose inévitablement les uns aux autres. Si la vérité transcendante n'est pas reconnue, la force du pouvoir triomphe et chacun tend à utiliser jusqu'au bout les moyens dont il dispose pour faire prévaloir ses intérêts et ses opinions, sans considération pour le droit des autres. Alors l'homme n'est respecté que dans la mesure où il est possible de l'utiliser aux fins d'une prépondérance égoïste. Donc voilà, on a le totalitarisme, on rentre dans un totalitarisme à partir du moment où on ne reconnaît pas une loi transcendante, à partir du moment où une autorité édicte elle-même ses lois ou ses règles du bien et du mal, sans aucune autre référence que lui-même. Même si, bien sûr, les règles du bien et du mal sont reconnues par une majorité lors d'un vote. Ce n'est pas parce qu'on a voté ça que c'est forcément bien. Et c'est ce que la doctrine sociale de l'Église ne cesse de dire. Si ces règles contredisent l'ordre naturel, elles ne sont pas légitimes car elles engendrent des désordres. Donc, on peut dire aussi que l'État totalitaire est à lui-même son propre juge, et dans ces conditions, une mauvaise action peut devenir bonne si ça sert les intérêts de l'autorité. Et là, Saint Jean-Paul II va analyser, va aller un peu plus loin encore, il va dire que, pour lui, selon lui, la racine commune de toutes ces tendances, et finalement de tout totalitarisme, c'est le relativisme éthique, qui malheureusement caractérise une grande part de la culture contemporaine. Le relativisme éthique qui caractérise une grande part de notre société. Alors, j'aimerais vous lire un élément, le numéro 46, une partie du numéro 46 de Santissimus Annus, qui est facile à entendre, mais qui semble prophétique, mais qui fait peur aussi. Hein. Quand il parle de l'État totalitaire, quand il analyse finalement les fonctionnements du totalitarisme à l'œuvre, il dit « On tend à affirmer aujourd'hui que l'agnosticisme, donc c'est pas l'athéisme, hein, c'est pas un refus de Dieu, mais c'est une forme de doute, enfin, je ne sais pas si Dieu existe ou pas. François Mitterrand était agnostique, donc voilà, il y avait peut-être quelque chose, puis il y aura peut-être quelqu'un, alors bon, on se préserve un peu de tous les côtés, quoi. Si jamais je meurs, bon, je crois en quelque chose, pas Jésus-Christ, hein, mais il y a peut-être une divinité comme ça, bon, je me laisse une porte de sortie en quelque sorte. Hein. Donc on tend à affirmer aujourd'hui que l'agnosticisme, donc c'est un doute, hein, et le relativisme sceptique, on est alors dans le doute généralisé, hein. On ne sait pas. Alors on doute de tout, mais quand même on se garde des portes de sortie. Hein. Bon. C'est-à-dire qu'on est en permanence, on ne s'engage jamais dans un rond-point, un quatre chemins, on est au milieu des quatre chemins, où on est un peu comme dans le sketch de Raymond DeVos, on tourne en permanence autour du rond-point parce qu'on sait pas, on ne veut pas s'engager. On ne sait jamais. C'est peut-être ça nous entraîne où. Donc un relativisme sceptique, je caricature un peu, mais enfin bon. Parce qu'on a des philosophes du doute hein, qui vont pas être contents. Mais le relativisme sceptique, dont on tend à affirmer aujourd'hui que l'agnosticisme et le relativisme sceptique représentent la philosophie et l'attitude fondamentale accordée aux formes démocratiques. Aujourd'hui, hein, c'est va loin ce qu'il veut dire, parce que aux formes démocratiques de la vie politique, c'est-à-dire que ça va loin, c'est-à-dire que la véritable attitude démocratique aujourd'hui, ce serait justement ce relativisme sceptique. Ou cet agnosticisme. C'est-à-dire que ce serait le doute en permanence. Ce serait de ne croire en rien, surtout de ne pas s'engager dans quelque chose. Ce serait d'être toujours flottant en quelque sorte. Ce serait le vrai démocrate, c'est ça aujourd'hui, de ne pas choisir en quelque sorte, accordé aux formes démocratiques, et que ceux qui sont convaincus de connaître la vérité, donc ceux qui ont une foi en quelque sorte, ou qui s'engagent, mais qui posent un acte de foi, et qui lui donne une ferme adhésion, c'est les chrétiens, hein, ne sont pas dignes de confiance d'un point de vue démocratique. C'est-à-dire que nous ne serions pas dignes de confiance d'un point de vue démocratique parce que nous avons fermement une foi. Nous nous engageons fermement dans une loi et nous obéissons à une loi. Nous avons en quelque sorte une structure éthique, comme si nous imposerions aux autres. Donc, j'irai voir le numéro 46 de Santissimus Annus. Donc, je reprends. Donc, l'attitude fondamentale, l'agnosticisme, relativisme sceptique, représente la philosophie et l'attitude fondamentale accordée aux formes démocratiques de la vie politique. L'homme politique, il doit être comme ça. Et que ceux qui sont convaincus de connaître la vérité et qui donnent une ferme adhésion ne sont pas dignes de confiance d'un point de vue démocratique. Quand on nous entend, nous les chrétiens, taisez-vous. Non, vous n'avez pas, taisez-vous, vous autres. Parce qu'ils n'acceptent pas que la vérité soit déterminée par la majorité. Nous n'acceptons pas que la vérité soit déterminée par un vote. Pour nous, c'est Dieu. Ou bien qu'elle diffère selon les divers équilibres politiques. Et de continuer, il continue encore dans cette analyse du totalitarisme, une démocratie sans valeur se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire. C'est le risque de l'alliance entre la démocratie et le relativisme éthique qui retire à la convivialité civile toute référence morale sûre et la prive plus radicalement de l'acceptation de la vérité. Et il va aller plus loin encore dans Evangelium Vitae. Il va mettre en garde les hommes contre la culture de mort. C'est-à-dire que pour lui, ce relativisme éthique engendre une culture de mort qui envahit nos sociétés démocratiques. En perdant le sens de Dieu, on tend à perdre aussi le sens de l'homme, de sa dignité et de sa vie. Evangelium Vitae, numéro 21. Du reste, lorsque la référence à Dieu est exclue, il n'est pas surprenant que le sens de toutes les choses en soit profondément altéré. Et là, c'est un combat de Saint Jean-Paul II, et que la nature même soit réduite à un matériau ouvert à toutes les manipulations. Voilà. C'est-à-dire qu'on perd le sens de Dieu. Donc ça, c'est un premier point donc, à propos de qu'est-ce que le totalitarisme. Et la doctrine sociale de l'Église va articuler aussi avec un autre élément qu'on va appeler la tentation matérialisme qu'on a dedans. Donc on est dans, il faut être sceptique, hein, agnostique, sceptique pour être de bons démocrates, ça vous avez compris, ce que vous n'êtes pas, enfin j'espère. Et puis bien sûr, il faut surtout entrer dans la tentation matérialiste. Là on est des bons démocrates. Voilà. Et de continuer, hein, toujours Saint-Décimus Sanus numéro 44. L'éclipse du sens de Dieu et de l'homme conduit inévitablement au matérialisme pratique, qui fait se répandre l'individualisme, l'utilitarisme et l'hédonisme. Voilà. L'éclipse du sens de Dieu, hein, puisqu'on n'a plus d'éthique, de repères fondamentaux, hein, des 10 commandements, bien sûr, hein, on conduit donc au matérialisme pratique qui fait se répandre l'individualisme, c'est ce qu'on est, on est en plein dedans, l'utilitarisme, on va utiliser l'autre en permanence, et l'hédonisme, bon, là, il suffit d'écouter à la télévision, ce refrain qui vient toujours, fais-toi plaisir. Vas-y. Là, on a les trois dedans, hein. Individualisme, utilitarisme, hédonisme. Fais-toi plaisir. Voilà. On est dedans. Hein. Moi, je me perds dans mes pommes. Voilà. C'est ainsi que les valeurs de l'être sont remplacées par celles de l'avoir. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Les valeurs de l'être sont remplacées par celles de l'avoir. La seule fin qui compte est la recherche du bien-être matériel personnel. La prétendue qualité de vie se comprend essentiellement ou exclusivement comme l'efficacité économique, la consommation désordonnée, la beauté et la jouissance de la vie physique, en oubliant les dimensions les plus profondes de l'existence, d'ordre relationnel, spirituel et religieux. Les critères aujourd'hui, vous irez voir, je crois que je me suis mis sur Internet, comment réussir sa vie. C'est Marie-Claire qui m'a appris comment réussir sa vie. Un journal qui s'appelle Marie-Claire, que je ne vais jamais voir, mais bon, vous connaissez certainement. Alors, il faut réussir sa vie. Pour réussir sa vie, il faut avoir de l'argent. Il faut être reconnu, reconnu socialement, voilà. Et il faut pouvoir jouir des plaisirs de la vie. Voilà. Donc, voilà, argent, reconnu, et jouir de la vie. Déjà, voilà, on a compris. Ça, c'est quelqu'un qui réussit sa vie. Bon, on comprend. Chacun décide. Hein. Enfin, on voit que c'est quand même... On voit comment l'éclipse, hein, du sens de Dieu conduit à ça. Donc après, on a la doctrine sociale de l'Église va, enfin, et surtout grâce à Jean-Paul II, hein, il va distinguer les deux grandes formes de totalitarisme. Donc, première forme, l'État tentaculaire ou la perte du sens des responsabilités. Deuxième forme, le relativisme ou libéralisme. L'État tentaculaire ou la perte du sens des responsabilités, non, c'est une forme de totalitarisme qui s'exerce dans le domaine de l'application pratique de l'organisation de la vie publique. C'est-à-dire que l'État totalitaire tend à absorber la nation, la société, la famille, les communautés religieuses et les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elle tend à prendre tous les pouvoirs, y compris culturels et spirituels, de façon claire ou déguisée. Alors on pourrait dire que ça n'existe plus, ça c'est typiquement du socialisme, c'est typiquement du communisme, enfin, on regarde bien un petit peu, c'est plus compliqué que ça, examinons. On a qui cherche à être partout, à gérer un petit peu les consciences. Hein. Donc il va, et c'est là qu'on retrouve la doctrine sociale de l'Église, il va donc ôter aux communautés intermédiaires, entre autres la famille, hein, mais aux entreprises, aux écoles, aux associations diverses, hein, tout pouvoir de décision et de choix. Il suffit de leur enlever toutes les subventions et l'argent, et puis ben là, boum, on est tous, on suit. De même, lorsqu'il y a un système éducatif unique et obligatoire, à moins de sacrifier économiquement des sommes folles dans un cursus privé, hein, hein, lorsque la vie économique repose sur un modèle de vie universel, hein, eh bien, on voit bien quand les lois sont trop contraignantes, eh bien, il en est de même, enfin, on est obligé de suivre le mouvement et on voit bien que l'État devient tentaculaire parce qu'il nous forme. Voilà. Et donc, et c'est ce qui se passe. Alors, c'est peut-être une des causes, hein, des gilets jaunes, enfin, on en a parlé, hein. Même Macron s'est expliqué sur ça, hein. Non, je ne suis pas contre les communautés intermédiaires, mais on voit bien, dans un discours direct avec le peuple, comme tous ces discours qui s'est fait, on voit bien qu'il est, c'est l'État ou le président face au peuple. Il y a différents types, avec les enseignants, avec les maires, etc. Mais c'est l'État directement qui s'exprime. Hein. On n'a pas de société intermédiaire, hein, qui garantissent finalement une liberté à chacun, mais qui permettent aussi d'accéder à une certaine parole. Là, que peut faire un individu face à l'État ? Souvenez-vous que les corps intermédiaires, c'est la première chose que la Révolution française a enlevée. Comme ça, le citoyen était face à l'État, face au gouvernement. Et forcément, il est paralysé, quoi. Il n'a pas les moyens de réagir. Donc, il rentre dans le rang, forcément. Alors que les sociétés intermédiaires permettent, hein, que ce soit la famille, l'école, enfin la famille, oui, mais l'Église, les syndicats, permettent d'accéder à une vérité ou même à une parole, de dire des choses. Mais là, comment pouvons-nous faire ? On est comme paralysés. Donc on a ça. Donc il existe, alors il en résulte bien sûr, un appauvrissement de toute la société. Les agents économiques dessaisis de leur pouvoir se désintéressent, puisque c'est l'État qui fait tout, de la vie sociale et en viennent à ne rechercher que leur intérêt propre. Comment un État tentaculaire va entraîner un individualisme encore plus important et en se déchargeant complètement de toute responsabilité sur l'État. Finalement, c'est à l'État de tout faire. Donc il y a un problème, alors c'est l'inverse, c'est le problème. Dès qu'il y a un problème, c'est forcément la faute de l'État. Et on voit bien aussi, quand le maire de Chaland essaie de faire grandir, on va dire, le sens de la citoyenneté assez chalandais, il fait des petites rencontres de quartier, espérant les aider à le faire rentrer dans ce sens de la citoyenneté, et il revient un peu dépité, il m'en parle, il dit, ils m'ont parlé que leurs petits soucis, de leurs petits problèmes. Là, il y avait un problème dans ma rue, il y a une pierre qui est démachin, qui va me faire tomber, ou il y a un lampadaire qui ne fonctionne pas. Et en fait, non. Il a essayé de ramer pour les faire rentrer dans le sens du bien commun, mais non. Non. C'est d'abord leur problème. Voilà. Et c'est une difficulté. C'est-à-dire que c'est déjà une difficulté dans laquelle on peut rentrer facilement. On a du mal à penser, parce que c'est au maire de tout gérer. On est dedans. C'est-à-dire qu'il y a quand même une conception qui est induite en nous, en quelque sorte. Dès qu'il y a un problème, c'est le maire. Ou dès qu'il y a un problème plus important, c'est le curé, ou c'est le chef de l'État, en gros. Hein. Plutôt que de dire, qui serait un bon citoyen, hein, une bonne réaction, bon, on voit bien que vous êtes débordé, comment on peut vous aider ? Bon, mais encore faut-il que l'autre veuille. Donc ça, c'est du côté de l'État tentaculaire, donc qui entraîne une perte des responsabilités. Et vous avez l'autre côté, le relativisme ou libéralisme. Là, c'est un peu, ça semble l'inverse. L'État refuse de donner des règles, des normes, des limites à l'expression de la liberté de chacun, ou des libertés de chacun, et dans tous les domaines, qu'ils soient économiques, mais dans tous les autres domaines aussi, culturels, etc. Il n'y a pas de normes, tu fais ce que tu veux. Alors on part dans tout. On peut dire sur tout, on peut tout dire, tout faire. Hein. En fait, l'État laisse faire. Hein. L'initiative, donc, est laissée, mais à quel prix ? Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour la vérité, pour une juste hiérarchie des lois et des valeurs. Chacun pense et fait ce qu'il veut. Et finalement, toute vérité se vaut et on tombe dans le relativisme. Voilà. C'est-à-dire comment le libéralisme peut entraîner un relativisme. Chaque vérité se vaut, ou plutôt la vérité du plus fort, celui qui a les moyens d'aller peut-être dans les médias ou de posséder des médias, est forcément celle qui suit. Et on sait bien aussi qu'il y a peu de personnes qui sont capables aussi de défendre leurs propres valeurs, ou même d'avoir une colonne vertébrale suffisamment importante pour défendre ses propres valeurs aussi. Et donc forcément, elle va suivre. Elle va suivre le mouvement. Elle va forcément suivre le mouvement. Donc, pour nous, bien sûr, seule la loi naturelle peut fonder légitimement une action politique. Seule la loi naturelle. Donc, en conclusion, on voit bien ces deux systèmes, comme le dit, proviennent non seulement d'un refus d'une vérité transcendantale, mais aussi sur l'homme. D'une vérité transcendantale, mais sur l'homme, c'est-à-dire qu'on refuse la vérité sur l'homme et sur Dieu, mais c'est aussi un refus de ce qu'on pourrait appeler du principe de subsidiarité. C'est-à-dire que soit l'État fait tout, soit finalement il laisse faire, mais finalement il gère, c'est à lui, il gère plus facilement. Et donc, pour la doctrine sociale de l'Église, seule une société, on ne peut pas laisser l'État tout faire sans contrôle. L'État, pour lui, a le devoir de veiller justement à la vérité, à ce que la vérité soit établie dans l'homme, à ce devoir de réaliser le bien commun, quelle que soit finalement la vérité que chacun essaye de faire advenir, quelles que soient les croyances des uns et des autres. Il n'y a pas un laisser-faire à vivre. Je vais passer maintenant à la mission de l'autorité politique. On va aller un peu plus vite. On va dire que la mission de l'autorité politique, ce chapitre renvoie au rôle de l'autorité politique. Les conséquences d'un mauvais exercice de cette autorité au niveau de l'État sont beaucoup plus importantes, sont beaucoup plus importantes car elles entraînent un grand nombre de citoyens dans le bien ou dans le mal. Donc on voit que la façon dont l'État va gouverner peut entraîner les citoyens à vivre dans le bien ou dans le mal. Et c'est là, justement, c'est à ce titre-là, et vous irez voir le catéchisme de l'Église catholique, que la doctrine sociale de l'Église et l'Église en elle-même reconnaît le rôle important et soutient le rôle important des politiques. Car le politique, dans sa façon d'exercer, de gouverner un peuple, va l'entraîner vers le bien, doit chercher à l'entraîner vers le bien, vers la vérité. C'est là que c'est essentiel. Et l'Église, et Saint Jean-Paul II ne cessait de le dire, il faut soutenir les hommes politiques. Il faut les aider. Il faut vraiment les soutenir pour qu'ils vivent. Alors, et parce que pour l'Église, alors c'est une autre aussi, bien sûr, conviction. Pour l'Église, toute autorité vient de Dieu. Souvenez-vous, on va dire même, pour nous, l'autorité d'un président, l'autorité d'un maire, pour nous, doit participer de l'autorité suprême de Dieu. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit à Pilate, tu n'aurais pas cette autorité si Dieu, mon Père, ne te l'avait pas donnée. Donc il faut imaginer, l'autorité pour nous du président Macron participe à l'autorité suprême de Dieu. On a ça aussi. C'est-à-dire qu'on doit respecter aussi une autorité légitime. Après, on peut distinguer les lois aussi, mais voilà, c'est autre chose. Souvenez-vous aussi. Donc tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est-à-dire ce qui exige pour nous tous le respect, le grand respect. Cependant, et c'est ce que va dire aussi le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1903. S'il arrive aux dirigeants d'édicter des lois injustes, à ce moment-là, il ne nous est pas obligé de les respecter. Nous avons le devoir de le dire. L'Evangelium Vitae va dire, il en est tout particulièrement, c'est tout particulièrement valable dans les lois sur l'avortement, bien sûr. Evangelium Vitae numéro 74. Donc dans cette mission donc de l'autorité politique, l'État doit désigner et assurer le bien commun. Par bien commun, il faut entendre l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une manière plus totale et plus aisée. Donc, le bien commun comporte des éléments, c'est-à-dire le respect de la personne, de ses droits naturels, le droit d'agir aussi, donc, d'avoir le respect de la liberté religieuse. C'est deux principaux, le respect de la personne et liberté religieuse qui reviendront souvent. Non, je ne vais pas non plus tout faire. Et puis, troisièmement, excusez-moi, la paix sociale. Assurer par la durée et la sécurité d'un ordre juste. Trois éléments, donc. Respect de la personne et de ses droits naturels. Respect de la liberté religieuse et du bien-être aussi de l'autre. Et surtout, la paix sociale. Assurer la paix sociale. Pour la doctrine sociale de l'Église à propos de ça, cela ne peut être assuré que si le bien commun est toujours orienté vers le progrès des personnes. Le progrès des personnes ne peut être envisagé sans une référence à la vérité sur l'homme. Donc c'est ça qui est compliqué, parce que la société, donc, elle a pour rôle d'aider ses membres et les corps intermédiaires à parvenir plus facilement à leur fin. Ceux qui dirigent l'État ne doivent jamais perdre de vue cette finalité première de la société. C'est le respect du bien commun qui devrait guider tous les choix, toutes les actions des responsables de l'État et de la communauté humaine. Et l'État qui a pour finalité le vrai bien commun favorise l'existence et la croissance d'un vrai peuple, composé de communautés exerçant avec confiance leurs responsabilités propres. C'est ainsi qu'on pourra atteindre le bien commun et une paix sociale. Je vais passer sur le rôle économique. Bon. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2431, il dit que l'État doit avoir un regard sur les lois économiques ou sociales, de façon à ce que celles-ci respectent les droits fondamentaux et favorisent une plus grande communication des biens pour le progrès de tous. On voit bien. Et c'est sans doute là une des revendications des Gilets jaunes. L'État doit avoir un droit de regard sur les lois économiques ou sociales, de façon à ce que celles-ci respectent les droits fondamentaux et favorisent une plus grande communication des biens pour le progrès de tous. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 2431. On voit bien. Et c'est sans doute là, tout de suite, une des racines aussi de la colère. Parce que, mais après, faut-il se tourner vers le bon moyen. Autre mission aussi, c'est le droit d'association et le rôle des communautés intermédiaires. Ça, on en a parlé aussi. Parce que l'homme est un être de relation, il ne doit pas tout attendre de l'État. Et c'est tout l'intérêt aussi des communautés intermédiaires qui permettent à l'homme de pouvoir vivre, non pas face à l'État, mais ça lui donne plusieurs, on va dire, étapes, plusieurs marches pour pouvoir participer à son tour à la vie publique et au bien commun. L'idée de tout ça, ça veut dire, c'est cette croissance à travers le bien commun, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que tous nous soient, que l'État nous aide à nous tourner tous ensemble vers le bien commun pour qu'une société puisse croître ensemble. Et le but, c'est toujours de veiller à la croissance. Et donc, ce que chaque chef d'État devrait se dire, à travers les lois que j'ai posées, à travers ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait, est-ce que j'aide à la croissance de mon pays? Est-ce que j'aide à la croissance du bien commun dans mon pays, au bonheur et à la sécurité? Je terminerai par l'aspect de nation. La mondialisation des échanges économiques, le mélange des cultures et la vie commune entre les peuples, entre des peuples très variés, ont entraîné une perte de sens et de la valeur des nations. Il faut réfléchir à cette importance de l'aspect de nation dans la vie des hommes, au moment où des pressions diverses mettent en cause l'identité nationale et les racines culturelles de nos vieux pays chrétiens. L'homme, chacun d'entre nous, a besoin pour vivre de racines, de relations avec d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés de vie, qui vivent les mêmes événements et avec qui les échanges peuvent être plus fructueux. C'est encore la communauté de destin qui est la plus forte et chacun peut en faire quotidiennement l'expérience. Là, on a, à travers l'expérience, l'événement des Gilets jaunes, on voit bien que des personnes se sont retrouvées au travers d'une même communauté de destin. Et il y a quelque chose de cet esprit de nation qui germe là. Souvenez-vous aussi que notre président, quand il a commencé... son quinquennat nous avait parlé, il disait qu'il fallait réécrire, un roman national. Il faisait référence à Ricoeur, mais réécrire un roman national pour justement tourner les gens ensemble vers quelque chose, vers une, pas une identité, mais pour que les gens aient conscience qu'ils fassent tous partie d'une même nation. Pourquoi ? Parce que le monde capitaliste aujourd'hui, forcément, va nous individualiser, nous singulariser, nous communautariser. Et là, on essaie de tout rassembler autour d'un même roman national. C'est intéressant. Et là, et on voit bien que les Gilets jaunes ont trouvé au moins un lieu comme une communauté de destin à vivre. Et c'est ce que nous vivons aussi. C'est dans ce contexte que l'on peut comprendre les réalités de patrie. La patrie, c'est la terre des pères, de culture et de nation. La nation est en effet une grande communauté des hommes qui sont unis par des liens divers, mais surtout par la culture. La nation, d'après Saint Jean-Paul II, existe par la culture et pour la culture. Voilà. Donc, pour Saint Jean-Paul II, il va dire que la nation est le lieu de notre naissance. Il renvoie à tout ce dont nous héritons, tant du point de vue matériel, la terre, la patrie, que du point de vue immatériel, qui est la culture. La nation enracine l'homme dans un certain mode de vie et une hiérarchie de valeurs héritées des pères. Cela justifie un certain attachement à la patrie, terre des pères, et à l'application du quatrième commandement qui concerne la reconnaissance et l'aide non seulement à ses parents, mais aussi plus largement envers ceux qui nous ont précédés et qui nous ont transmis cette culture. Donc, n'oublions pas que nous avons donc besoin, avant de pouvoir transmettre, donc, il nous faut, et c'est sans doute l'erreur aujourd'hui, accepter, savoir recevoir et accepter l'héritage véhiculé par une nation, par la nation française, à travers tous ces groupes qui la constituent aujourd'hui. C'est à partir de ce moment-là, de cet enjeu-là, que nous pourrons véritablement voir le rôle de l'État. Mais là, c'est un enjeu énorme pour l'État aujourd'hui. Bien sûr, nous espérons bien sûr qu'il nous montrera la voie. Bon, n'hésitez pas à aller voir Sanctissimus Annus, Evangelium Vitae, et bien sûr, comme toujours, votre Bible, qui est le catéchisme de l'Église catholique.